Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi, dans le rétro.
Salut les amis, dernier épisode de Dans le Rétro. On espère que cette petite saga vous a fait patienter pendant l'été avant la reprise de la saison de Formule 1 et le classique warm-up pour lancer le prochain Grand Prix, le débrief des courses. Bien évidemment, activer les petites notifications parce que quand il y a des petits épisodes hors série comme ça qui tombent comme ça, vous avez le petit message sur le téléphone qui vous prévient parce que sinon on passe à côté de plein de choses et nous on ne veut pas que vous passiez à côté de tout ce qu'on fournit en termes de contenu Formule 1. Ce serait dommage. Les ingénieurs du paddock RMC sont là, Jean-Luc Roy et Nicolas OP de Formule France sur Instagram. Salut les copains.
Salut.
Oui, salut mon Nico, bonjour à tous. Salut.
On rappelle qu'on termine cette saga. Oui, oui, ça va les deux Nico. On rappelle qu'on termine cette saga qu'on vous a proposée sur les tragédies hein, et les jours dramatiques marqués l'histoire de la Formule 1 qui ont changé aussi l'évolution de notre sport. Si vous avez des idées pour les paddock RMC où il n'y a pas de course, vous voulez, je sais pas, raconter les histoires de certains pilotes. Bref, si vous avez des idées qui vous traversent l'esprit, vous n'hésitez pas à vous commenter avec nous. Les amis, on va se plonger dans une histoire particulière. Il y a certaines tragédies en F1 qui ont commencé par un accident, bien sûr. Celle-ci, elle commence peut-être par une trahison. Au début de l'année 82, Ferrari possède sans doute le duo le plus fort de la Formule 1. D'un côté, Gilles Villeneuve, le pilote préféré des Tifosi, c'est un attaquant capable de réaliser l'impossible sur la piste. De l'autre, Didier Pironi, intelligent, rapide, ambitieux. Ils sont coéquipiers, ils sont amis. Ce sont deux hommes qui se respectent profondément jusqu'à un dimanche d'avril 1982 à Imola où quelques tours vont suffire à faire exploser leur relation. Une consigne qui est mal comprise, un dépassement, une colère immense. Puis un serment, Gilles Villeneuve jure qu'il ne pardonnera jamais à Didier Pironi. Deux semaines plus tard, Gilles Villeneuve meurt. Pendant plus de 40 ans, cette histoire a nourri les débats. Qui est responsable? Est-ce que Pironi a trahi Villeneuve? Est-ce que Villeneuve a pris des risques inconsidérés? Ou est-ce que cette tragédie était inévitable? Dans le paddock RMC, aujourd'hui, on va vous raconter l'une des histoires les plus bouleversantes de la Formule 1.
Two friends in their own world. But destiny decides something else.
Lors du Grand Prix de Saint-Marin, une trahison se produit.
Maintenant, c'est Pironi qui attaque Villeneuve. Attention, ce sera... Oh là là, là, il a véritablement coupé la route à Villeneuve là, en prenant beaucoup de risques.
Il a fait preuve de beaucoup d'audace.
Oh là là. Premier, Pironi. Oui. Deuxième, Villeneuve.
Pour Gilles, c'est un coup de poignard dans le dos. Il est furieux.
En passant à une droite, il a failli me taper en plus au freinage. Et ensuite, là, c'était fini, on est arrivé au dernier tour. Alors, je comprends absolument rien. Moi, j'ai ralenti pour sauver la voiture et le con qui me dépasse. On nous a fait signe tous les deux de ralentir. Ralentir, ça veut tout dire, sachant qu'on ne doit jamais faire la bagarre ensemble.
Au point qu'il jure de ne plus jamais parler à Pironi.
Je suis très déçu par la réaction de Gilles parce que, personnellement, je ne pense ne rien avoir fait qui puisse le contrarier. En tout cas, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai joué le jeu toute la course et jusqu'au dernier tour.
C'est le début de ce qui aurait dû être une intense rivalité.
Catapulté vers le rail, la Ferrari fait d'abord un tonneau, puis se pulvérise en retombant. Gilles Villeneuve est éjecté de la voiture, tandis que son casque est en même temps arraché. Projeté contre les grillages de protection, Gilles Villeneuve est dans un état tellement grave que sur place, les sauveteurs vont tenter un massage cardiaque et un bouche-à-bouche avant de l'évacuer vers l'hôpital de Louvain.
Après avoir heurté la voiture d'Alain Prost qui le précède au moment du drame, il décolle par deux fois et vient finir sa course dans les rails de sécurité. L'avant de la voiture est entièrement détruit. Pironi, toujours conscient, donne les directives aux sauveteurs pour le dégager. Son état est pourtant grave. Après 20 minutes d'effort, Didier Pironi est transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Heidelberg où l'on diagnostique une double fracture des jambes et du bras gauche. Demain, le Grand Prix d'Allemagne aura bien lieu. Pironi n'y sera pas. Il ne sera jamais non plus champion du monde des conducteurs.
Déjà, avant de se plonger sur ce jour dramatique et la mort de Gilles Neuve, il faut qu'on essaye de bien poser le contexte et prendre les personnalités que sont ces deux pilotes. Nico, présente-nous un des protagonistes de cette histoire.
Comment parler de Pironi sans Villeneuve et comment parler de Villeneuve sans Pironi et de cette année 1982 noire à plein d'égards. Moi, je vais vous présenter Pironi, comme l'a dit Nico. Donc Pironi, il est surnommé l'Américain par pas mal de ses compères en Formule 1. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'inverse de beaucoup, il vient d'une famille aisée. En Formule 2, quand les pilotes viennent avec leurs camions et dorment dans des tentes, lui, il arrive en hélicoptère. Alors ça irrite un peu certains et d'autres, ça impose le respect, comme disait Jacques Lafitte, qui disait qu'il avait encore plus de respect pour lui puisque lui avait l'argent et malgré ça, il se mettait dans des situations risquées en étant pilote de Formule 1. Il gagne le Grand Prix de Monaco 1977 en Formule 2 et c'est ça qui lui offre, qui lui ouvre les portes de la Formule 1. La même année, il remplace au pied levé Patrick Tambay aux 24 heures du Mans et remporte la classique Mancelle avec Patrick Jossot sur une Alpine Renault. Donc clairement,
Jean-Pierre Jossot.
Clairement, après cette mise en bouche, sa place en Formule 1, elle est ouverte. Et donc, après quelques années chez Ligier, où notamment il montre une très grande pointe de vitesse, il signe chez Ferrari en 1981, où il se retrouve avec un certain Gilles Villeneuve.
Jean-Luc, toi, t'as connu par la voix de ton pote Patrick Tambay. Il faut que tu nous présentes ce phénomène. C'est vrai qu'en off, on se disait son fils, Jacques Villeneuve, a pris énormément de traits de caractère, de personnalité de son papa. Présente-nous Villeneuve.
Ah bah c'est un personnage absolument incroyable, un personnage romanesque, je dirais, Gilles Villeneuve. Il était né en 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Ça ne s'invente pas. Et bien évidemment, il fait très froid, vous le savez bien, au Canada, il fait très froid au Québec. Donc, il commence par s'illustrer avec ce qu'il a sous la main, bah, les motoneiges. Donc, il fait des courses de motoneige. Et comme il est incroyablement audacieux. Et c'est un petit bonhomme, hein. il n'est pas spectaculaire, il n'est pas impressionnant, mais alors il est d'une énergie absolument incroyable, il est en forme et il finit par devenir champion de motoneige. Mais il est attiré par tout ce qui est mécanique et il est excellent dans tout. Dès qu'on lui donne un engin avec un moteur, il en tire tout de suite, immédiatement, le maximum. Il ne sait pas, il n'y a pas de phase d'attente avec Gilles Villeneuve. Il est comme ça depuis le début. Et donc, il finit par effectivement monter en gamme. On dit que ses premières compétitions, ce sont tout simplement des compétitions de dragster, un peu d'accélération avec une Ford Mustang, tu vois, qui est gavée de chevaux. Bon, c'est comme ça qu'il se fait plaisir. Et puis il se fait remarquer, il monte en gamme, il participe au championnat qui précède l'IndyCar et l'Indy Light aux États-Unis. Il roule en Can-Am également. C'est là qu'il rencontre Patrick Tambay, qui va devenir son ami très très proche. Et c'est donc, comme tu l'évoquais, mon Nico, par Patrick que je connais Gilles et par son fils Jacques Villeneuve, dont je suis très proche. Donc on a évidemment beaucoup parlé de son papa. Alors évidemment, Gilles, il a une réputation, Nico l'a évoqué il y a un instant, qui dépasse son palmarès. Parce que quand je vais vous le donner, je vais vous le rappeler, il n'a que 6 victoires en Formule 1, ça paraît incroyable, alors qu'il était chez Ferrari, finalement pas très longtemps, le pauvre, de 79 à sa disparition en 82. Il n'a que 2 pole positions et 8 meilleurs tours en course. Alors, c'est un palmarès déjà que beaucoup de pilotes aimeraient avoir, mais on pense que c'est mieux. Et le tout en 67 départs en Grand Prix. Donc, vous voyez qu'il a marqué l'histoire, il a impressionné tout le monde par son style de pilotage, parce que c'est un jusqu'au boutiste, il ne sait pas faire les choses à moitié, il est généreux dans tous les sens du terme, dans la vie déjà, il est généreux, et il va toujours à l'excès, il pilote un hélicoptère qu'il mène à l'extrême. Et puis, si je commence à vous raconter des anecdotes, mais allez, j'en fais une qui va vous suffire. Avec Didier Pironi à l'époque, quand ils sont tous les deux chez Ferrari, ils ont bien sûr une Ferrari de fonction, hein, et vous imaginez bien. Parfois, ils ont la même Ferrari de fonction, parce qu'il se trouve que y en a une que Gilles a cassée, par exemple, ou dont il a cassé le moteur, peu importe. Mais c'est arrivé, là aussi, je peux vous raconter un énorme paquet d'anecdotes sur le personnage. Et donc, ils sont tous les deux à bord d'une Ferrari, et ils se rendent, on va dire, de Maranello à je ne sais où, on va dire à Imola, par exemple, pour des essais, où vous voulez, ou au Mugello. Et donc, ils roulent ensemble, et ils se passent le volant, sans rien dire, et ils se chronomètrent pour savoir celui qui restera à fond le plus longtemps. Vous m'entendez ? Sur route ouverte, bien sûr, hein, sur la route. Le but est d'être celui qui gardera le pied à la planche le plus longtemps. Vous voyez le genre de personnage.
Ah ouais, on voit bien, ouais. Et c'est vrai que c'était une relation fraternelle entre les deux, hein, quand ils sont chez Ferrari. Jean-Luc, ils étaient très très proches, Villeneuve et Pironi.
Ah ben oui, au début, ça se passe très très bien, puisque effectivement, Didier est très talentueux. Bon, Gilles est l'homme en place. Hein. Gilles, ça va être important pour la suite de notre histoire, qui se termine tragiquement. Gilles a respecté les consignes de la Scuderia Ferrari en 79 pour laisser gagner Jody Scheckter, alors qu'il était en mesure, peut-être, de le contester. Mais il accepte de s'effacer. Il termine deuxième du championnat, alors que manifestement, il a le talent, la vitesse et la voiture pour s'imposer. Mais on lui dit, comme Enzo Ferrari, l'ingénieur, le considère presque comme son fils, lui, il a des rapports presque paternels ou de grand-père avec lui, on respecte ce que dit la Scuderia. Donc, il s'exécute et il fait en sorte que ce soit Jody Scheckter qui soit champion du monde. C'est très important. Quand il voit arriver Didier Pironi, qui a évidemment les dents qui rayent le plancher en 1981, il l'accueille bien, puisque les deux hommes sont extrêmement talentueux et qu'ils se tirent la bourre, mais dans le bon sens du terme. Ça élève le débat. Alors, la Ferrari n'est pas extraordinairement performante cette année-là. Il va y avoir beaucoup de casse mécanique, justement. Manque total de fiabilité. Gilles détruit un certain nombre de voitures qu'il met dans des états d'ailleurs absolument incroyables. Là aussi, il y a des photos qui existent. Hein. Il ramène notamment, je crois que c'est en Belgique ou en Hollande, je ne me rappelle plus, en Hollande peut-être, il ramène sa Ferrari blessée à laquelle il manque une roue, enfin elle traîne par terre, il la ramène au stand dans des gerbes d'étincelles. Bon, c'est des images dont tout le monde se rappelle. Mais la cohabitation, pour répondre à ta question, est très bonne au début de la première année.
Et qu'est-ce qu'il va faire, Nico, là, qu'il va y avoir une rupture entre les deux et qu'il va y avoir cette légende alimentée un petit peu de la trahison entre Villeneuve et Pironi qui peuvent conduire au dramatique accident de Gilles Villeneuve?
Eh bien, comme le dit très bien Jean-Luc, bonne entente au début. Et moi, quand je me suis replongé dans cette histoire, j'y ai vu un parallèle entre Senna et Prost. Entre Senna, qu'on pourrait comparer à Villeneuve, dans le rôle du pilote impressionnant avec ce talent en pilotage inné, et puis Prost, le méticuleux, le pointilleux, dans le même rôle que Pironi, où il y a beaucoup de sang-froid et de diplomatie. D'ailleurs, à cette époque, en 82, c'est Pironi qui est directeur du GPDA et qui, avec Lauda, mène la grève des pilotes de Formule 1 contre la FOCA et la FIA.
Pourquoi au Grand Prix d'Afrique du Sud, hein, au premier Grand Prix de la saison, absolument.
Tout à fait. Alors pourquoi cette grève déjà? Parce que c'est un peu l'origine de l'histoire. Cette grève, les pilotes, la F1 voulait instaurer une super licence. Et cette super licence, elle stipule que les pilotes doivent inscrire la date d'expiration de leur contrat avec leurs employeurs. Alors ça, déjà, ça enlève bien des libertés pour négocier son contrat. Et ça, les pilotes se révoltent et obtiennent gain de cause. Mais il y a toujours une guéguerre entre la FISA et la FOCA, ce qui fait qu'au Grand Prix d'Imola 82, certaines équipes, notamment les équipes anglaises, refusent de participer au Grand Prix et on se retrouve seulement avec 14 voitures sur la grille. 14 voitures pour un Grand Prix de Formule 1. Il n'y a pas McLaren, par exemple. C'est une grille un peu clairsemée. Et dans ce remue-ménage-là, dans cette histoire qui prend quand même des allures, on se demande à un moment donné si la Formule 1 ne va pas se diviser en deux championnats. Et c'est d'ailleurs un des sujets des livres de Michel Vaillant à l'époque. Est-ce qu'il n'y aurait pas un championnat FISA et un championnat FOCA? Ouais. Ce qui serait un peu pour traduire l'équivalent si actuellement la FIA et Liberty Media se tiraient dans les pattes. Globalement, s'il y avait un championnat Liberty Media, un championnat FISA. Et donc, ouais, avec 14 voitures à Imola, les deux Ferrari et les deux Renault se disent on va faire le spectacle pour les spectateurs et dans les premiers tours, on va se passer, se repasser et faire le spectacle pour les spectateurs.
Et du coup, ce qui se passe après, Jean-Luc, là, il y a ce jeu de dépassement. Et il y a une consigne, en fait, qui est passée entre Pironi et Villeneuve. Il y a un dépassement de Pironi sur Villeneuve.
Et c'est quand même un grand prix, hein. Il y a quand même une victoire à la clé et puis des points à attribuer. Donc effectivement, après ce que vient d'évoquer très, très, très justement Nico, eh bien la vraie course, le grand prix, reprend évidemment ses droits et on commence à s'attaquer vraiment. Et là, Gilles Villeneuve est devant et effectivement, Didier Pironi parvient à le passer, Gilles le repasse. Bon, mais tout ça dans un esprit sportif et de combat. Jusqu'au moment où, dans les stands, eh bien, on passe un panneau conserver vos positions, qui est très clair. Justement, on ne s'attaque plus et on va terminer comme ça pour les deux derniers tours. On passe ce panneau à l'avant-dernier passage devant les stands. À l'époque, il n'y a pas de radio, hein, il faut le rappeler. On communique avec le pilote uniquement par des panneaux brandis par les mécaniciens depuis le bord des stands dans la ligne droite. Donc, Gilles, qui est en tête, voit ce panneau. Didier le voit également probablement. Et on aborde le dernier tour. Et puis, ce qui se passe, c'est que Gilles baisse très légèrement sa garde, très légèrement. Évidemment, Didier Perroni en profite pour l'attaquer, pour le passer et pour prendre la tête. Alors là, dans le baquet, Villeneuve est absolument horrifié. Il est ulcéré. Il se dit, mais il ne respecte pas les consignes. Et on termine comme ça. Il essaie bien de le repasser avant la fin du dernier tour, mais il n'y parvient pas. Et il termine, je crois, à 0,3 dixième de seconde seulement. Et là, il est, mais fou de rage, hystérique. On termine. Donc, il y a un podium. Les images existent, là aussi, où on voit le visage décomposé de Gilles Villeneuve, alors que Didier Pironi, lui, fête sa victoire. Et puis surtout, c'est la réaction de la Scuderia Ferrari qui écœure Gilles Villeneuve. Parce que lui, il a une nouvelle fois respecté les consignes de l'équipe et il considère que son équipier ne les a pas respectées. Je rappelle qu'il a laissé un titre de champion du monde à Jody Scheckter 3 ans auparavant en respectant les consignes d'équipe. Donc il se sent profondément trahi et même, et ça c'est malheureusement la goutte d'eau qui fait déborder son vase, même l'ingénieur et Enzo Ferrari lui-même félicite Didier Pironi pour sa victoire et ça, Gilles ne peut le supporter.
Il ne le supporte pas et du coup, Nico, il arrive à Zolder, c'est le prochain Grand Prix. Il arrive dans un état où il est, Jean-Luc le disait, hein, la colère ne s'est pas estompée. Il est fou furieux, il est à la recherche du tour absolu, du chrono absolu en qualif. Il veut montrer que c'est le patron, quoi, tout simplement.
Ouais, totalement. Villeneuve, il s'est senti trahi par son coéquipier et puis en plus par un ami et même par une partie du garage de Ferrari. Et donc, à Zolder, pendant les essais qualificatifs, quand il voit que Pironi a fait un meilleur temps que lui, Villeneuve, même s'il n'y a aucune raison de ressortir, il ressort, il remet des trains de pneus frais et puis il attaque parce qu'il veut montrer que c'est lui le meilleur et que, un peu dans une sorte d'hystérie, il doit être devant Pironi. Et puis en fait, malheureusement, ce qui arrive, les accidents, ça arrive dans le sport auto, en arrivant rapidement sur un retardataire, donc c'est Jochen Mass, qui se décale pour laisser passer Villeneuve, sauf que Villeneuve, lui, s'était déjà décalé pour le dépasser. Villeneuve percute violemment Jochen Mass et s'envole en l'air. Les images existent de l'accident et puis on voit que la Ferrari se décompose totalement et se coupe en deux dans l'incident. Et le corps de Gilles Villeneuve est retrouvé expulsé de la voiture et atterrit dans les filets.
Ouais, c'est un accident qui a marqué tout le monde, Jean-Luc. La violence du choc, la projection de Villeneuve, ça a marqué tous les passionnés, tous les suiveurs de la F1 à cette époque.
C'est épouvantable, c'est absolument monstrueux. Ce sont des images qu'on a beaucoup de mal à voir ou à revoir. J'avoue que comme tout le monde, je les ai vus une fois, mais ça m'a largement suffi. Ouais. Alors l'incompréhension avec Jochen Mass, et là aussi j'ai très bien connu Jochen Mass par la suite, en endurance notamment, puisque vous le savez, j'ai eu la chance de faire les 24 heures et il pilotait pour Mercedes à l'époque, donc on s'est bien connu sur les Dakar également. Et Jochen Mass a été marqué lui aussi à vie, alors que il n'était pas responsable de l'accident, il était un des éléments de l'accident. En fait, ce qui s'est produit, c'est qu'en arrivant sur ce tracé de Zolder, qui est un tracé là aussi à l'ancienne, assez dangereux, assez étroit, bordé de rails et d'arbres, il a vu surgir la Ferrari, alors que lui était dans un tour de décélération, puisque c'était la toute fin des essais qualificatifs, comme Nico vient de le décrire. Et donc, Gilles ne voulait pas perdre le moindre millième de seconde, donc il a opté pour une trajectoire au moment pile où Jochen Mass a décidé, en voyant la Ferrari dans le rétroviseur, de libérer la bonne trajectoire pour la Ferrari. La bonne, c'est-à-dire la meilleure. Et donc, ils se sont trouvés au même endroit et la monoplace s'est envolée littéralement sur les roues arrière à largement plus de 230 ou 240 km/h. Et comme l'a évoqué Nico, malheureusement, évidemment, la résistance, la solidité des monoplaces n'était pas celle qu'elle est devenue. Et là, elle s'est véritablement disloquée, la Ferrari. Et Gilles a été arraché avec son baquet, d'ailleurs, c'est la fixation du baquet qui a lâché et il s'est retrouvé directement à l'extérieur. Alors là aussi, on l'a conduit à l'hôpital et malheureusement, le verdict était terrible. Et Joanne Villeneuve, son épouse, que j'ai bien connue aussi, la maman de Jacques, n'était pas présente sur le tracé. Elle était restée à Monaco, à leur domicile de Monaco, avec les deux enfants.
Je crois que c'était la communion de la petite.
C'est ça, de la sœur de Jacques.
C'est totalement dramatique.
Ouais. Et donc Patrick Tambay, qui avait débuté en Formule 1, donc je l'ai dit, il s'était très bien connu au Canada déjà, il s'était très bien connu en Can-Am, et puis il se trouve qu'ils avaient débuté ensemble en Formule 1 au Grand Prix de Silverstone en 1977. Donc 5 ans auparavant, et depuis ils avaient toujours eu des liens, puisque Patrick avait aidé Gilles et sa famille à trouver un logement, à s'implanter un peu en Europe, puisque lorsque Gilles évidemment a participé régulièrement aux championnats du monde, ils étaient devenus très 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 amis, ils se retrouvaient en Suisse pour faire du ski également, enfin ils étaient vraiment très très proches.
Et puis derrière il y a aussi, on imagine dans cette histoire, Nico, la réaction de Didier Pironi, déjà Ferrari complètement dévasté, le monde de la F1 est sous le choc, et puis la réaction de Pironi, ce poids un peu de la culpabilité qu'il a pu ressentir.
Ouais, il n'en a jamais parlé ouvertement à quiconque, et c'était quelque chose qui le traumatisait énormément dans tous les reportages qu'on peut voir sur lui, c'est quelque chose qu'il avait ancré en lui. Faut voir que après l'accident de Villeneuve, la piste est bloquée. Il y a Pironi qui arrive sur les lieux du drame. Il y a une photo très connue de Didier Pironi qui revient à son stand à pied avec son casque dans une main et celui de Gilles dans l'autre après l'intervention des infirmiers et des médecins. Pironi forcément doit d'une certaine manière se sentir coupable de ce qui s'est passé, même si quand on refait la chose, c'est plutôt le fait de la trahison de Pironi à la course d'avant qui a instauré en fait un climat délétère et la folie de Villeneuve.
Ouais, totalement, totalement. C'est vrai qu'il en a jamais parlé, Jean-Luc, hein, Didier Pironi, Nicole disait. Je sais pas si toi, après, derrière, tu as pu évoquer ce moment avec lui en off, dans toutes tes années sur le paddock, mais...
Écoute, oui, je l'ai évoqué comme d'autres, avec pudeur, avec retenue. Hein. Ce n'est pas le genre de question que tu peux poser de plein pied. Puis Didier était quelqu'un, paradoxalement, oui, il était il était beau gosse, j'allais dire, il était showbiz, il était tout ce qu'on veut, mais c'était quelqu'un qui parlait finalement assez peu, il n'était pas très expansif, pas très communicatif. Et donc oui, je l'ai connu plusieurs années plus tard, 4-5 ans plus tard, il se trouve qu'on avait passé un week-end ensemble même, je lui ai posé des questions, pas directement sur ça, mais il ne répondait pas, ou il répondait à côté, parce qu'effectivement, je pense que c'était un sujet... personnellement très douloureux, qu'il avait enfoui au fond de lui-même. Et c'était une rivalité sportive, même si, bon, le mot de trahison a été employé à plusieurs reprises. On peut parler de non-respect des consignes, mais on peut parler aussi de jusqu'au boutiste. Ces pilotes, ils avaient malheureusement l'habitude de vivre avec le danger, avec comme l'avait écrit François Sever dans son bouquin, lui aussi disparu, vous le savez bien, aux essais du Grand Prix des États-Unis à Watkins en 73, hein, donc 9 ans auparavant, la mort est dans mon contrat. Et c'est ce que disaient les pilotes à l'époque, la mort est dans le contrat. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie de leur sport. Il y avait eu le drame de Rodney Peterson également, hein, au départ du Grand Prix de Monza en 78, vous vous en rappelez, cette collision où une dizaine de monoplaces sont impliquées et où la voiture prend feu, etc. Enfin, et qui allait conduire malheureusement au décès de Rodney Peterson dans la nuit. Les pilotes vivaient avec ça, ils connaissaient ça, ils essayaient. Jackie Stewart s'est beaucoup exprimé sur le sujet également, hein, avant de prendre sa retraite à la fin de la saison 73. Donc voilà, et Didier, on le sait, 2 ans après les faits que j'évoque, lui a disparu lors d'une course de bateau, vous le savez, de offshore, hein, en compagnie notamment de Bernard Giroux et puis d'un ingénieur de la Formule 1. C'était au large des côtes d'Irlande. Voilà, ce sont des hommes d'une autre trempe qui vivaient d'une autre manière et qui vivaient à la limite, tout le temps à la limite.
Oui, parce que Nico, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Didier Pironi, il est frappé par le destin à Hockenheim en 82, avec un gros accident sous la pluie aussi, qui marque sa fin de carrière en F1.
C'est ça, ouais.
Quelques mois après ce drame de Gilles Villeneuve.
C'est ça, l'année 82, elle est vraiment noire, puisque au Grand Prix qui suit l'accident de Gilles Villeneuve, Pironi est en pôle et il cale sur la grille. Et là, il y a le pauvre Riccardo Paletti qui arrive derrière et qui se retrouve empalé par son volant et la colonne de direction et qui meurt sur le coup. Donc ça fait déjà un deuxième décès dans une année totalement noire. Et puis, bah, Pironi se retrouve un peu le favori pour le titre avec deux victoires lors de cette saison 82. Mais malheureusement, à Hockenheim, pendant des essais, sous la pluie, encore une fois, peut-être c'est ce tour de trop pendant des essais où il voulait une nouvelle fois faire le meilleur temps. Il se prend une voiture retardataire, donc cette fois-ci celle de Alain Prost, qui était en train de roder ses freins, donc au ralenti dans l'une des nombreuses lignes droites d'Hockenheim, et qui ne voit pas sous une gerbe de d'eau. Il s'empale dans la voiture derrière, et un peu à l'image de l'accident de Villeneuve, la voiture s'envole et se coupe en deux. Les mécaniciens Ferrari diront après la suite, en voyant la voiture de Pironi revenir au garage, avoir revu absolument la même voiture que l'accident de Gilles Villeneuve quelques mois plus tôt. Pironi est amené à l'hôpital et subira une trentaine d'opérations chirurgicales au niveau des jambes. On parle de 10 cm d'os qui ont été retirés. Et malheureusement, cet accident est si grave que jamais il ne reprendra le volant d'une Formule 1.
Ouais, ce sont les destins tragiques là, des années 80-90. On est heureux, même si c'est pour parler de tragédie, d'avoir pu vous raconter ces moments qui ont marqué l'histoire de la Formule 1 avec
Nico,
Jean-Luc et avec Nico.
Si tu permets, juste je rajouterai sur l'accident d'Hockenheim deux choses très importantes, hein, et en tout cas à mes yeux. C'est que d'une part, effectivement, il avait évité une première monoplace dont il avait vu les gerbes d'eau, pour être précis, et il percute celle de Prost, comme l'a évoqué Nico, qu'il ne voyait pas parce que la monoplace précédente venait de l'éviter. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est la différence de vitesse. Ça, c'est pour être précis. Ils étaient trois impliqués en fait dans cet accident. Alain Prost également verra ces images terribles qui resteront aggravées dans sa mémoire vraiment à jamais. Ça, il me l'a dit. Et puis également, Didier reste conscient pendant tout ce temps-là et c'est lui qui demande à ce qu'on ne lui coupe pas la jambe parce qu'il veut garder sa jambe. Tu vois, la force mentale, la puissance de ce garçon, c'est absolument incroyable. Et puis pour l'histoire, parce qu'il faut terminer sur une bonne note, c'est Patrick Tambay qui gagnera ce Grand Prix d'Hockenheim. Et donc, puisqu'il va être appelé par le Commendator, l'ingénieur et Ferrari, à succéder à son ami Gilles Villeneuve, il le fera de la meilleure des manières. Et donc, il remportera ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Et Patrick m'a toujours dit, j'étais pas tout seul dans la voiture, j'étais aidé. Et même chose avec la victoire la plus émouvante, c'est celle d'Imola, puisqu'il s'est trouvé sur la grille de départ à l'emplacement exact de celui qu'occupait Gilles Villeneuve, c'est-à-dire la troisième place sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Imola, qu'il a remporté également. Et là aussi, Patrick, plusieurs fois, m'aura décrit, il a même eu un choc sur le casque, et il en parlait vraiment en toute lucidité, il dit « J'ai senti que quelqu'un me protégeait ce jour-là », et il a remporté ces deux Grands Prix pour Ferrari.
Et si je peux me permettre aussi, tant qu'on est dans les anecdotes, deux anecdotes sur cette histoire folle, parce qu'il y en a tellement des anecdotes entre Pironi et Villeneuve. Sur son lit d'hôpital, Pironi reçoit un trophée de la part de Enzo Ferrari qui sera gravé à Didier, le vrai champion du monde 1982. Et puis aussi, avant de décéder, Didier Pironi attendait des jumeaux, dont un qui a été nommé Gilles, et qui on a retrouvé en Formule 1 puisqu'il était ingénieur chez Mercedes et monté sur un podium il n'y a pas longtemps avec Lewis Hamilton et qui a gagné par la suite, puisqu'il est parti en endurance chez Ferrari, ce Gilles Pironi qui a remporté l'édition 2023 des 24 heures du Mans avec Ferrari 45 ans après son père.
C'est beau, j'adore quand vous avez plein d'anecdotes comme ça, et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des destins complètement mystique hein, dans ce, ouais, dans ce sport-là. Ouais. On a beaucoup parlé d'Ayrton Senna, mais là, tout ce que tu nous racontes, Jean-Luc, entre Patrick Tambay et Gilles Villeneuve, ces histoires-là là, qui sont magnifiques à entendre. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir présenté ces trois podcasts. On se retrouve du coup pour la reprise de la saison en forme. Il y a plein de choses à dire. On espère que vous avez apprécié les formats. N'hésitez pas à liker le podcast, comme on dit, à le repartager et puis à venir commenter avec nous, nous dire ce que vous voulez avoir pour les prochaines petites séries qu'on peut vous proposer. Salut à tous, bye bye.
Le paddock RMC.